RJB Info. Olivier Zano.
Bonsoir. Le budget 2021 de la ville de Moutier est enfin sous toit. Les citoyens l'ont accepté largement ce dimanche par plus de 62% des voix. L'objet était contesté par un référendum déposé par un groupe de citoyens anonymes. On le rappelle, le budget prévoit un excédent de charges d'1 370 000 francs, mais l'écart affiché aujourd'hui dans les urnes est une preuve de confiance selon le maire de Moutier, Marcel Winisterfer.
Écoutez, toutes les personnes qui connaissent la façon dont se montent les budgets vont voter oui parce qu'elles participent de l'intérieur à ces choses-là. Il y a toute une chaîne de personnes qui sont actives, de commissions, et ensuite ça vient au conseil municipal, ensuite au conseil de ville, donc c'est traité par toute une série de personnes. Et ces personnes-là, évidemment, ont répété aussi à d'autres, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un résultat probant pour l'acceptation de ce budget. J'ose espérer que maintenant ça fait deux fois, en 18, hein, on répète l'opération 21 avec un écart encore un peu plus grand, que les gens comprennent un peu. C'est pas un travail isolé, c'est un travail de toute une équipe, de toutes les personnes qui se penchent et qui essayent de trouver des solutions pour permettre de présenter un budget qui soit le meilleur possible.
Alors vous le savez, hein, y a quand même malgré tout des craintes qui peuvent être légitimes. Finalement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'inquiètent ?
Ils ont raison de s'inquiéter, nous aussi on s'inquiète. Mais il faut trouver les bonnes réponses. Et je crois que ce n'était pas une bonne façon ici de positionner par rapport aux autorités. Je crois qu'il faut aller de l'avant. Il faut qu'on mette ce programme qui a été accepté par l'OACOT en exécution. Il faut qu'on soit appliqué, qu'on prenne les décisions qui ont été proposées. Et je crois qu'on va s'en sortir. Avec le changement institutionnel par-dessus, je crois qu'on aura toutes les clés en main pour trouver de nouveau un budget équilibré pour cette ville.
La ville de Moutier a également 8 ans pour assainir ses finances. Les premières mesures vont entrer en force prochainement, à commencer par le non-remplacement de certains départs à la retraite. L'augmentation d'un point de la quotité d'impôt à l'horizon 2023 reste une possibilité. Faire rugir son moteur ou accélérer de manière excessive, tout cela peut vous amener à être dénoncé. La police cantonale bernoise a procédé à des contrôles samedi dans la région de Bienne notamment. Des contrôles qui visaient les conducteurs coupables de bruits inutiles. Au total, 63 personnes ont été dénoncées et certaines voitures ont été mises en sûreté en raison de soupçons de modifications non autorisées. Les situations de crise sont souvent l'occasion de se remettre en question et d'évoluer. L'Université populaire jurassienne en sait quelque chose. L'institution n'a pas chômé en 2020. Elle a profité de mûrir certaines idées et de renforcer les collaborations. Cela a été dit samedi lors d'une assemblée générale virtuelle. 2020 a été une année difficile, mais charnière. Alors où en est-on aujourd'hui ? Le coprésident sortant de l'UP jurassienne, Denis Perrin.
Les graines plantées l'année passée commencent à pousser, mais nous sommes bien entendu dépendants aussi des directives de l'OFSP, des directives cantonales en matière de présence sur le terrain, de présence en assemblée, dans des cours. Beaucoup de programmes de cours ont été mis en place dans la limite de ce que nous pouvons faire. Et puis nous allons poursuivre, je dirais tranquillement, de mettre en place nos nouvelles idées. Dans cette perspective, je crois qu'il est important de la fondation du Citoyen 2030, ou pour le moins de notre participation à ce travail-là.
Et parmi les nouveautés, le développement d'activités en ligne, l'adaptation de certains cours pour les organiser hors les murs ou encore la mise sur pied de séjours découvertes dans la nature. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'Assemblée générale de l'UP jurassienne sur notre site internet. Et tout comme l'université populaire, la HEP Béjune a traversé la crise du coronavirus sans trop de casse, mais en se réinventant. C'est le constat qui peut être tiré à la lecture du rapport bisannuel 2018-2020 de l'institution qui est paru récemment. La Haute École Pédagogique, commune au canton du Jura et de Neuchâtel, ainsi qu'à la Berne francophone, accueille environ 600 étudiants par année. Dès mars 2020, elle a remplacé les cours en présentiel par l'enseignement à distance, tout en maintenant globalement les stages dans les écoles. Élément important, pourtant, les changements n'ont pas provoqué de hausse du nombre de cas d'étudiants en décrochage, comme l'indique le recteur Maxime Zuber.
Moi, je ne peux pas exclure que l'un ou l'autre de nos étudiants ait eu des difficultés. Ils savent toutes et tous que notre porte est ouverte. On a un dispositif pour leur venir en aide. Si je prends les résultats des examens, on n'a pas constaté un taux d'échec supérieur dans la période de crise en regard des années passées, des années dites normales. C'est une tendance qui semble se confirmer en Suisse, en tout cas globalement. Alors, On ne peut pas exclure que dans d'autres secteurs, dans d'autres filières d'études, il y a eu plus de dégâts, mais pour les HEP, et pour la nôtre en particulier, on n'a pas constaté ce genre de décrochage. Et je pense que tout le mérite en revient d'abord à nos formateurs, mais aussi à nos étudiants, qui ont fait preuve pendant cette crise, et moi j'ai pu le constater aussi en comparaison avec ce que j'entendais de mes collègues recteurs ailleurs en Suisse, les étudiants de l'HEP Bégin ont fait preuve d'une compréhension et d'une abnégation que j'aimerais ici vraiment saluer. Comme recteur, moi j'ai de la chance d'avoir ce corps étudiantin-là. Il a fait preuve de solidarité aussi, et puis de compréhension, sachant que la situation n'était pas imputable au rectorat, mais c'était une situation générale. Et on a eu cette vraie compréhension de nos étudiants et j'aimerais les en remercier.
Est-ce que quelque part aussi, le maintien des stages, ça a favorisé de garder le contact avec sa formation et de ne pas les crocher?
Je crois que oui. Alors en fait, je pense qu'il y a deux aspects pour les HEP. D'abord, il y a le fait que nos étudiants majoritairement proviennent de notre région. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans les écoles polytechniques, des étudiants qui se retrouvent seuls dans leur chambre à Lausanne ou à Zurich. Ici, nos étudiants majoritairement sont implantés dans leur région. Donc il y a un fort attachement. Je dirais que c'est en fait une sorte de caractère captif de notre corps étudiantin. Donc ils n'ont pas été marginalisés dans leur vie de tous les jours et sociale, même si celle-ci a été réduite. Et puis en plus, alors c'est vrai que le fait qu'ils aient pu suivre des stages, ben ça leur a donné l'occasion de garder le contact, un contact social, un contact professionnel, et puis aussi un contact avec le monde de la formation. Et je pense que ça a contribué à peut-être moins les isoler qu'un étudiant, je ne sais pas moi, en biologie ou en architecture. Et ça, c'est peut-être une chance pour nos HEP. Et ça montre aussi l'importance qu'il y avait de veiller à ce que cette formation pratique puisse se dérouler dans les conditions normales.
Maxime Zuber au micro de François Comte. Une scène digne d'un film d'action à Winterthur, un homme ivre et armé d'un fusil d'assaut s'est livré à une course-poursuite avec la police la nuit dernière. Le jeune de 21 ans a finalement été arrêté. Personne n'a été blessé, indique la police municipale. Trois hommes, deux femmes et une majorité qui bascule à droite. Le deuxième tour de l'élection au Conseil d'État neuchâtelois a livré son verdict aujourd'hui. Les trois sortants, les PLR Alain Ribot et Laurent Favre, ainsi que l'EPS Laurent Courte, ont été réélus. La socialiste Florence Natter fait son entrée au gouvernement neuchâtelois. Et la surprise est venue de la libérale radicale Christelle Graff, qui a pris le dernier siège aux dépens de la gauche. La nouvelle élue PLR commente son résultat et relativise l'importance du changement de majorité au Conseil d'État. Christelle Graff.
Un immense sentiment de gratitude, de reconnaissance envers tous ceux qui ont porté cette campagne parce que ça a vraiment été un travail d'équipe et aujourd'hui fier du résultat.
Dans quel état d'esprit vous serez avec ce gouvernement PLR?
Alors avec vraiment l'état d'esprit de vouloir trouver des solutions parce qu'aujourd'hui c'est pas gauche-droite, ça doit vraiment être tous ensemble pour une solution commune qui passe les différentes étapes, notamment auprès du Parlement. Donc c'est vraiment travailler ensemble plus que travailler gauche-droite.
Mais Christelle Graff a donc terminé à la cinquième place, mais avec une nette avance sur le vert Robichop. La PLR compte plus de 4000 voix de plus que l'écologiste. Robichop souligne le caractère compact du vote de l'électorat de droite.
Il y a eu un vote extrêmement discipliné du PLR et de la droite, de toute évidence. On a vu tomber vraiment des résultats blocs. Et puis pour le reste, le travail des partis, c'est de présenter des idées puis des candidatures pour les incarner. L'électorat fait son choix, donc je prends acte.
Est-ce que vous pensez que c'est les Verts qui n'ont pas convaincu ou c'est votre personne?
C'est le propre d'une candidature au Conseil d'État. C'est plus personnel qu'au Grand Conseil, donc une personne incarne des idées et puis je suis bien incapable d'imaginer si l'électorat a pas fait confiance aux idées écologistes, à la gauche plurielle ou bien à ma personne en tant qu'individu. Ça, je pense qu'il faudra que des politologues nous fassent une analyse.
Un dossier réalisé par nos confrères de RTN, Adrien Juvet et Sarah Massy. Le Conseil fédéral a transmis 18 demandes à la secrétaire d'État, Livia Leuil, chargée de négocier l'accord cadre avec l'Union européenne. C'est ce qu'indique aujourd'hui le Sonntagsblick. Le Conseil fédéral veut notamment des exceptions à la directive sur la citoyenneté européenne. Elle faciliterait en effet l'accès des citoyens européens aux assurances suisses. L'Union européenne, encore elle, n'a pas renouvelé son contrat de fourniture de vaccins Covid-19 avec AstraZeneca pour après le mois de juin. Ce non-renouvellement intervient au lendemain de l'annonce d'un nouveau contrat entre l'UE et Pfizer-BioNTech. Le vaccin d'AstraZeneca utilise une technologie plus traditionnelle. Pour rappel, il a pâti de très forts retards de livraison qui ont poussé l'UE à introduire une action en justice. Un vent de liberté s'est levé ce dimanche en Espagne où les habitants sont enfin autorisés à sortir de leur région pour retrouver des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis des mois. C'est l'inverse en Tunisie où un nouveau confinement d'une semaine a commencé. Les autorités tunisiennes qui ont averti vendredi que le système de santé menaçait de s'écrouler en raison de l'afflux grandissant de malades dans les hôpitaux. On passe au sport et ce 98e succès en Formule 1 pour Lewis Hamilton. Le pilote britannique a signé une nouvelle victoire aujourd'hui au Grand Prix de Barcelone. Il s'agit de son 3e succès en 4 courses cette saison. Malgré une épreuve serrée, la Mercedes de Lewis Hamilton a finalement remporté son duel contre la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen grâce à une stratégie différente. Le podium est complété par un autre pilote de chez Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas. Du côté de la Super League de football, 3 rencontres se jouaient cet après-midi. Dans le fond du classement, la Lanterne Rouge Sion a écrasé Saint-Gall 3-0 et rêve toujours de maintien. Le 3e Servette a subi les foudres de Lucerne 3-0 également. Et dans le milieu du classement, Lausanne et Zurich ont partagé l'enjeu de partout. Toujours en football, Camille Surdé vit des moments difficiles. La footballeuse neuchâteloise de 23 ans, évoluant au FC Bâle en Super League féminine, traverse une période compliquée en raison de problèmes au genou. Après avoir déjà subi 3 opérations, la native de Sauges s'apprête à repasser par le douloureux stade de la rééducation. Cette étape pourrait être décisive dans la suite de sa carrière. On écoute Camille Surdé.
Mon genou, c'est un peu compliqué parce que c'est pas ma première blessure. J'ai déjà opéré 3 fois auparavant. Et donc là, c'est ma 4e fois. J'ai eu les croisés, les ménisques avec des adhérences, enfin le ménisque qui avait relâché. Enfin voilà. Là, je me retrouve avec une grosse contractile. Donc c'est le cartilage en fait qui se défait. Donc j'ai dû enlever quelques morceaux dans le genou. Ça coinçait en fait. Et du coup, maintenant j'ai une grosse contractile. Ça veut dire que j'ai plus beaucoup de cartilage. Et donc il faut que je fasse une grosse rééducation pour bien remuscler et, en espérant que ça protégera un peu le genou. Donc voilà, c'était rien de très gros cette 4e opération, mais il faut que je prenne un peu plus de temps sur la rééducation, étant donné mes anciennes opérations.
Donc si on comprend bien, c'est vraiment maintenant de faire cette opération pour être vraiment exempté de problèmes avec ce genou dans les saisons à venir?
Exempté, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu l'opération de la dernière chance. Là, je fais le maximum pour que ça aille mieux, et si vraiment ça n'ira pas mieux, il faudra que je voie pour peut-être finir ma carrière, mais je ne sais pas si je serai plus dérangée, mais en tout cas, c'est le but que je sois beaucoup moins dérangée, parce que là, ça commence à me gêner dans la vie de tous les jours, donc voilà, c'était plus possible.
Des propos recueillis par Damien Piscopiello. La liste des 32 est connue pour la prochaine phase de préparation en vue du championnat du monde de hockey sur glace. Patrick Fischer a fait son choix pour l'équipe nationale qui se réunira à Cham juste avant de partir pour Riga jeudi. 4 joueurs de NHL seront de la partie et 8 joueurs parmi les finalistes des playoffs de National League entre Genève Servette et Zug. Du côté du HC Bienne, seul Jérôme Moser a été retenu. Tim Merlier remporte la 2e étape du Giro. Le cycliste belge a devancé l'italien Giacomo Nizzolo cet après-midi au sprint sur le Tour d'Italie. Cette étape reliait Stupinigi à Novara sur 179 km. L'italien Filippo Ganna a gardé le maillot rose de leader au lendemain de son succès dans le contre-la-montre de Turin. Des nouvelles du ciel pour terminer. Profitez encore du soleil et de la chaleur. La suite s'annonce plus fraîche et surtout plus humide. Météo News prévoit encore un ciel dégagé demain matin, mais qui va se couvrir progressivement. Les premières pluies vont arriver par le sud. En cours de matinée, elles vont se généraliser ensuite. Et avec les averses, plus de fraîcheur, il fera entre 14 et 17 degrés au mieux. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et déjà un très bon début de semaine.